Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle au Québec, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne tarit pas d'éloges sur la vitalité du milieu. Terreau fertile, vivier, bassin de talent, les mots ne manquent pas pour s'en convaincre. Il faut dire que la révolution IA souffle depuis plusieurs années sur notre province et plusieurs font déjà de Montréal la capitale francophone mondiale de l'innovation. Avec ses multiples établissements universitaires, ses nombreuses chaires de recherche et une poignée d'organismes dont la mission est de faire le pont entre l'univers académique et les industries, personne ne peut nier le statut d'écosystème dynamique du Québec en la matière. Toutefois, une partie de l'équation reste non résolue, car au-delà du financement et de la recherche qui roulent à grande vitesse, en faisons-nous suffisamment pour répondre à la demande d'embauche de talents en IA dans les startups, PME et grandes industries? Recrutons-nous assez de travailleurs étrangers pour combler le déficit d'emplois qualifiés? Avons-nous une stratégie pour conserver les cerveaux en terre québécoise une fois qu'ils ont été formés? Et enfin, et surtout peut-être, la numérisation du travail transcendée par la crise sanitaire actuelle n'est-elle pas une opportunité à saisir pour accélérer la requalification de la main-d'œuvre d'ici? Alors pour débroussailler ce qui tient du mythe et de la réalité quand on parle d'attractivité et de rétention des talents en IA au Québec, nous avons fait appel à deux experts pour nous aider à y voir un peu plus clair.
Le Québec, un Eldorado pour les talents en IA, entre mythe et réalité, un balado C'est plus clair, proposé par la rédaction de C'est Science IA et animé par Philippe Rémy.
Deux experts pour nous accompagner, donc Jean-François Lefort, vous êtes directeur des opérations Programme de développement de la main-d'œuvre en intelligence artificielle chez Scale AI. Scale AI qui finance notamment des programmes de formation en IA dans les entreprises et pour les entreprises, avec pour but de perfectionner les compétences des ressources humaines. Vous nous en direz un petit peu plus. Bonjour à vous, Jean-François Lefort.
Bonjour, bonjour. Merci beaucoup de l'invitation. C'est un plaisir de participer.
Plaisir partagé et à vos côtés, en virtuel évidemment et à distance cette circonstance, Gilles Savard, directeur général chez Ivado, l'Institut de valorisation des données. Ivado qui propose également de la formation continue avec notamment le programme de la donnée à la décision. Évidemment, les enjeux de formation de main-d'œuvre n'ont plus aucun secret pour vous. Bonjour à vous Gilles Savard.
Bonjour Philippe.
Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, je vous propose d'écouter ceci.
Ce secteur est en pleine effervescence au Québec et nous devons continuer d'attirer et de retenir les meilleurs talents du secteur. La mise en place d'un programme pilote vise à répondre à ce défi. Nous voulons favoriser les meilleurs pour faciliter l'accueil des meilleurs talents de cette industrie naissante à très haute valeur ajoutée.
Alors, on vient d'entendre un extrait d'une conférence de presse captée par nos confrères de la presse, justement, diffusée le 28 mai dernier, durant laquelle le ministre québécois de l'immigration, Simon-Jolin Barrette, annonçait la réforme du programme de l'expérience québécoise, le fameux PEQ. Un an plus tôt, Julien Billot, votre PDG chez Scale AI et Jean-François Lefort, soulignait lors d'une entrevue accordée au journal Les Affaires qu'il y a, je cite, un manque de compétences et que les entreprises ont de la difficulté à attirer des talents en intelligence artificielle et en chaîne d'approvisionnement au Québec. Fin de citation. Alors évidemment, ma première question, elle est pour vous Jean-François Lefort. Deux ans après cette intervention de votre patron, le constat est-il toujours le même ou bien a-t-on adopté la bonne stratégie pour attirer ces fameux talents manquants?
Merci beaucoup de la question. Puis, je pense que il y a deux ans, ce qu'on a vu avec le dérangement, la crise sanitaire, les entreprises ont eu un énorme défi et ont dû remettre en question justement un modèle d'affaires qui existait possiblement depuis de très longues dates, dont des défis imprévus, si on veut. Ce qu'on a vu par rapport à l'adhésion à nos programmes, un sursaut dans les programmes publics, de répondre aux besoins du marché, nos programmes publics en intelligence numérique au Québec et à travers le Canada, les entreprises qui se tournaient vers nous afin de faciliter les interactions avec l'écosystème. Donc, ce qu'elle est vraiment, ce qu'on promouvoit, c'est la collaboration, l'investissement vers une transformation numérique et notre valeur ajoutée, c'est vraiment de créer ce lien-là. Donc, ce qu'on a... Ouais. Oui.
Donc, il a fallu, excusez-moi, il a fallu en fait s'adapter, c'est ça que vous dites. Hein, il a fallu vraiment adapter les programmes en fonction des besoins spécifiques. Parce que dans un rapport qui a été présenté il y a quelques années, la firme KPMG, Montréal International, mettait en évidence l'importance de la main-d'œuvre étrangère dans les secteurs de pointe. Une statistique qui est intéressante, qui est toujours d'actualité, c'est que près d'un tiers des professionnels en technologie sont issus de l'immigration, soit le double de leur part dans l'économie en général. Et les entreprises d'ici, elles affirment, lorsqu'elles font face à des défis prononcés de main-d'œuvre, qu'elles se tournent majoritairement vers les travailleurs étrangers au Québec pour y répondre. Selon l'écrasante majorité des entreprises sondées, ce serait vital au maintien de leurs activités courantes. Et sans eux, leur croissance ne pourrait tout simplement se faire. Gilles Savard, est-ce qu'on est devenu dépendant de l'immigration qualifiée dans nos industries innovantes au Québec?
Est-ce qu'on est devenu dépendant? Peut-être en partie, effectivement, mais ça découle d'une constatation assez claire. La demande en personnel hautement qualifié, en technologie d'information et communication, qui inclut l'intelligence artificielle, l'intelligence numérique, dépasse de beaucoup l'offre de nos institutions d'enseignement et de formation, que ce soit au cégep, à l'université, actuellement. Il y a plusieurs raisons à cela. Hein. On peut commencer tout simplement par le déséquilibre qu'il y a entre les sciences de la vie, où beaucoup de nos jeunes femmes, de nos étudiants vont vers les sciences de la vie et non pas vers les sciences naturelles et génie, et en particulier dans le domaine des technologies d'information et communication.
Donc là, il y a un problème
deuxième raison. Définitivement. Et la transformation numérique de nos sociétés est majeure pour l'ensemble des secteurs économiques et des institutions du Québec. Alors, répondre à cette demande-là est un enjeu. Ce n'est pas un enjeu unique au Québec. Hein. Il faut aussi être bien conscient. C'est une adaptation du marché du travail à cela. Et la troisième raison est simplement une question de plein emploi. Présentement, le Québec vit une période de plein emploi qu'on n'avait jamais vécue, et le vieillissement de la population ne va pas nous aider à résoudre ça. Donc, vous avez raison. Une grande partie de notre formation, des métiers actuellement en technologie d'information
sont prodigués par les travailleurs étrangers, en tout cas par l'immigration. Selon Investissement Québec, notre pôle d'attractivité québécois, il se déclinerait ainsi. On a le plus grand nombre de chercheurs universitaires du Canada. Notre métropole, Montréal, c'est la première ville universitaire en Amérique du Nord, avec 6 facultés de génie, 11 universités, 50 000 diplômés par année, un des meilleurs taux de scolarisation de l'OCDE. Et plus précisément, en IA, avec plus de 11 000 étudiants et plus de 20 centres d'excellence, plus de 30 incubateurs, on n'a rien à envier à qui que ce soit du côté académique. Qu'en est-il du côté industriel, chez les manufacturiers? Comment agissez-vous concrètement chez Ivado, chez Scale.ai pour assurer la transition des talents entre le monde de la recherche et celui de la production? On peut peut-être commencer par vous, Gilles Savard, vous aviez la parole chez Ivado. Comment ça se passe? Comment on fait?
Oui, comment on fait? Encore là, ce n'est pas facile. C'est un dialogue entre la connaissance et les besoins. Donc, cette mobilisation de la connaissance et des talents pour les entreprises, pour les organisations. Encore faut-il que ces organisations-là et ces entreprises comprennent qu'est-ce que c'est que c'est cette science qui est l'intelligence artificielle, hein, qui est une science relativement abstraite, hein, basée sur des algorithmes.
Et toute nouvelle,
effectivement. Donc, d'abord comprendre ce besoin de transformation numérique et de la valorisation des données, donc de mettre de l'intelligence dans cette transformation numérique pour créer de la valeur, ça, c'est la première étape. Donc, il y a une première étape qui est de sensibiliser les entreprises à l'importance de comprendre cette intelligence numérique, cette intelligence artificielle, ce monde de transformation numérique. Et ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu. Un enjeu, pourquoi? Parce que les entreprises québécoises, généralement, ne sont pas nécessairement portées sur la formation continue. Hein? C'est une chose qu'on remarque. Vous savez qu'au Québec, on a une obligation du 1 % de la masse salariale doit aller en formation, mais plusieurs entreprises ne
l'utilisent pas. Ben oui, c'est ça. Gilles Savard, permettez-moi de rebondir sur ce que vous... Et je veux interroger à ce niveau-là, Jean-François, sensibiliser les entreprises, très très important ce que vous venez d'indiquer. Est-ce que c'est pour vous aussi la stratégie, le même dispositif que vous mettez en place chez Scale.ai?
Absolument. Pour nous, c'est vraiment notre rôle, c'est de renforcer un écosystème pan-canadien, québécois à la fois, afin que les entreprises ont les opportunités qu'elles ont besoin afin de répondre aux défis auxquels ils font face. La main-d'œuvre, comme M. Savard a mentionné, la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit présentement, c'en est une. Donc, nos programmes sont visés justement à répondre aux besoins des entreprises et à faire en sorte que l'argent, les investissements qu'on fait a des retombées économiques et une croissance de richesse pour le Québec et le Canada.
Je vous propose maintenant d'écouter ceci.
Il y a très peu de données, en fait, sur l'exode des cerveaux québécois. La raison, elle est bien simple, c'est qu'une fois qu'ils quittent le territoire, c'est difficile d'avoir de leurs nouvelles. Donc, ils payent pas d'impôts ici, ils ont pas d'adresse, donc c'est difficile de les ramasser dans un recensement ou quelque chose comme ça. En 2013, dans une rare étude sur le sujet, quand même, on se questionnait sur l'exode des cerveaux canadiens vers les États-Unis. Les chercheurs écrivaient dans leur rapport que ce serait important quand même que le gouvernement se questionne sur cette tendance-là. Parce qu'il faut comprendre, en fait, c'est quoi leur motivation.
Le Québec, un Eldorado pour les talents en IA, entre mythe et réalité, un balado C'est plus clair, proposé par la rédaction de C'est Science IA et animé par Philippe Rémy.
On vient d'entendre l'extrait d'une entrevue diffusée sur le réseau LCN, une entrevue de la journaliste du Journal de Québec, Catherine Lamontagne, qui revenait sur un reportage qu'elle a effectué l'an dernier sur l'exode de la main-d'œuvre qualifiée du Québec. On a parlé justement de l'attractivité. Elle souligne à gros traits, beaucoup d'efforts sont mis pour attirer des talents au Québec, mais carence notable pour ce qui est de les retenir. Jean-François Lefort, est-ce que c'est un problème majeur à vos yeux, cette rétention, ou bien, au fond, on se satisfait d'abord et avant tout d'attirer. Attirer, c'est ça l'objectif, c'est ça la priorité. Retenir, c'est pas l'essentiel.
Je pense que c'est un équilibre entre les deux. Je pense que nous, ce qu'il y a, notre mission, c'est vraiment au niveau des entreprises, de l'écosystème, afin d'aider les entreprises à répondre aux défis. Soit que ce qu'il y a, la majorité de notre portefeuille, 180 millions est dédié au co-investissement, où est-ce qu'on accompagne les entreprises à investir, à déployer l'intelligence artificielle à travers leur chaîne d'approvisionnement. Donc, avec si on a un succès avec ces investissements-là, c'est un pivot pour les entreprises, un gain de productivité qui va aller chercher des créations d'emplois. Donc, pour nous, avec la création d'emplois, c'est là qu'on vise à attirer et retenir, bien sûr, ce genre de d'emplois.
Donc, vous dites en gros des emplois de qualité, hein, c'est ça que vous dites, c'est ça qui va retenir, c'est ça qui va permettre de maintenir les cerveaux ici. Est-ce que l'écosystème de l'IA a des solutions à offrir pour pallier justement cette solution, Gilles Savard? Et de votre côté, qu'est-ce que vous mettez en place chez Ivado?
Ben, je ne sais pas si on a des solutions, mais on a une expérience depuis, je dirais, 3-4 ans. Vous avez vu l'écosystème de Montréal se développer au niveau de l'intelligence artificielle, l'intelligence numérique, qui est une force mondiale, pas uniquement l'intelligence artificielle, hein, toute la chaîne analytique de la donnée à la décision. C'est une force montréalaise unique au monde. On a la recherche opérationnelle, l'apprentissage automatique et l'analytique descriptive, donc de la donnée à la prise de décision. Et ça, c'est une force. Et cet écosystème où le Montréal et le Québec est maintenant reconnu au niveau du monde. Donc, ce qu'on pouvait voir il y a peut-être quelques années dans le monde universitaire, nos cerveaux très talentueux se faisaient faire des offres par Silicon Valley, mais ces gens-là, maintenant, ont des possibilités de travail très intéressantes, à Montréal même, et on voit même en un région. Retour de gens qui étaient en Californie et qui reviennent à Montréal. Vous avez vu les investissements, une trentaine de multinationales qui sont venues, qui ont installé leur laboratoire de recherche en intelligence artificielle, intelligence numérique ici à Montréal. Et ça, ben ça aide à diminuer cet exode. Alors, est-ce qu'on est en flux positif ou négatif sur nos cerveaux? Pour ce qui est des étudiants québécois, je crois qu'on est, on les conserve très bien. Pour ce qui est des étudiants étrangers, on en perd encore un peu trop.
Exactement. Et si je peux rebondir sur ce que vous dites, Gilles Savard, on a peu de données, en fait, hein, sur l'ampleur de l'exode des talents par secteur d'activité. Malgré tout, une récente étude de l'organisme Mitax met en évidence que cette perte démographique, elle est particulièrement élevée dans des programmes spécialisés en technologie, comme en informatique, par exemple, où jusqu'à 30% des diplômés décident de quitter le Canada pour trouver du travail ailleurs. Gilles Savard, est-ce que c'est une donnée quand même qui vous trouble, j'imagine, qui pourrait vous empêcher de dormir, d'apprendre justement qu'on perd près du tiers de nos jeunes diplômés dans un secteur d'activité aussi stratégique? C'est important
C'est très important parce que c'est une richesse pour le Québec, ces étudiants étrangers qui viennent nous apporter leur expertise. C'est vraiment une richesse. Et j'ai une expérience personnelle, je suis professeur, j'en ai encadré énormément d'étudiants et je dois avouer que je suis très content, très fier que tous les étudiants étrangers ont demeuré au Québec. Mais il faut comprendre...
Ça, bravo.
Oui, je suis heureux.
Non, mais sincèrement,
j'en parle avec certaines...
Et vous avez raison de vous en féliciter, bravo. Parce qu'il faut les... Faut aussi, c'est peut-être aussi parce que les professeurs leur donnent envie de rester aussi.
Mais voilà, la première question que je leur pose dans l'entrevue d'embauche qui se faisait par Zoom à l'époque, parce que naturellement, ils ne venaient pas ici... Ouais. Avant d'être choisi, avant d'être sélectionné, c'était pourquoi? Pourquoi le Québec? Pourquoi vous venez ici? Qu'est-ce que vous connaissez de la francophonie? Qu'est-ce que vous connaissez de la culture francophone? Parce que ces étudiants peuvent aller, s'ils sont bons, peuvent aller n'importe où dans le monde. Et en arrivant, une fois qu'ils sont choisis, je leur demande, doctorat, c'est 4 ans, 4 ans et demi, moi, voulez-vous apprendre le français pendant les 4 prochaines années? Et 4 ans pour un étudiant qui a 22, 25 ans, apprendre une langue sans être forcé, c'est tout à fait faisable, tout à fait réalisable. Et les étudiants qui ne veulent pas apprendre le français ou s'intégrer à la culture québécoise, canadienne, ben, je ne les prenais pas, point final. Non pas qu'ils n'avaient pas de capacité académique ou de force, mais et je pense que c'est important, dès qu'ils arrivent au Québec, de les accompagner dans cette intégration au Québec. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui manque actuellement, où on leur donne leur formation, ils obtiennent leur thèse de doctorat, et puis après ça, bye.
Ouais, c'est effectivement ce qu'on constate, hein, parce qu'en tout cas, de ce qui explique le fait que certains travailleurs étrangers temporaires, hein, les fameux TETQ qui œuvrent dans les technologies, quittent le Québec, ils soulignent plusieurs embûches. Ils disent, parmi les embûches, la reconnaissance des compétences, la précarité du statut d'immigrant. Certains soulignent quand même, faut le dire, vous avez dit, on les accompagne dans la question de la langue, mais la barrière linguistique du français est soulevée comme un des freins à rester, et les démarches d'immigration sont souvent aussi soulignées. Certains auraient beau jeu de dire c'est bien beau d'attirer des professionnels qualifiés le temps d'un beau contrat, mais si on ne parvient pas à faire en sorte qu'ils demeurent, c'est un gâchis en termes d'efforts politiques, de fonds publics. D'accord avec ce constat aussi, Jean-François Lefort, c'est un gâchis.
Oui, tout à fait.
Comment vous considérez aujourd'hui que Gilles Savard a indiqué il faut les accompagner, il faut qu'il y ait ce soutien en permanent, je dirais, autour de nos talents. Est-ce que ce soutien-là, selon vous, Jean-François Lefort, il est pas assez important, pas assez souligné?
Je pense que avec le point de Monsieur Savard, le fait d'accompagner les jeunes étudiants qui viennent de l'étranger à apprendre le français. Ça développe un sentiment d'appartenance à la communauté, à la culture québécoise. Et lorsqu'on s'investit, on est accueilli par une communauté très chaleureuse. Donc, surtout la culture québécoise, sans ce genre d'investissement de leur part ou la volonté de l'accompagnateur, difficile à rester quelque part où est-ce que on ne parle pas nécessairement la langue, on ne peut pas nécessairement évoluer ou atteindre notre plein potentiel. Donc, effectivement, je pense que M. Savard amène un excellent point.
Alors, on investit des millions dans les programmes de formation, on crée des bourses, on exempte même les droits de scolarité de certains étudiants étrangers. Et clairement, on a une stratégie financière pour attirer les talents. Est-ce qu'on a cette même stratégie financière pour assurer la pérennisation des talents au Québec? Gilles Savard, peut-être pour vous répondre, est-ce qu'il y a une stratégie fiscale, des incitatifs, des crédits d'impôt qui pourraient faciliter justement cette stratégie de rétention?
Peut-être, effectivement. J'ai pas réfléchi à cet aspect-là. Je sais qu'il y a eu déjà, il y a peut-être une dizaine d'années, on avait un problème d'exode de cerveau, nos professeurs surtout, et de réattirer nos professeurs talentueux qui avaient trouvé du travail à l'extérieur. On leur avait donné des exemptions d'impôts pendant, ça allait jusqu'à une période de 5 ans, dégressif, etc. Et ça a été très profitable. Est-ce qu'on pourrait le faire pour les étudiants étrangers en disant « vous restez 1 an, 2 ans, 3 ans » Mais avant même d'aller vers des mesures fiscales comme ça, moi, j'accélérerais de beaucoup leur citoyenneté ou leur certificat d'acceptation du Québec.
Ou la facilitation.
Ces mesures de base qui devraient venir rapidement. Pour dire, on veut que vous restiez ici, vous apportez une valeur à notre société. Et après ça, le travail, évidemment, on a parlé de pénurie, de manque. Pour trouver du travail, ça va être assez direct. Donc, on peut peut-être aller jusqu'à des incitatifs.
Des incitatifs financiers, mais il y a des choses à faire avant.
Et rapidement, à la sortie, avec un diplôme de maîtrise, de doctorat et même de diplôme de premier cycle à l'université dans des domaines pertinents, normalement, ces gens-là devraient... Ça devrait être automatique. Pour l'instant, ils ont les possibilités pour une année, mais c'est limité une année. Ils n'ont pas la perspective. Quand ce sont des jeunes professionnels, des jeunes diplômés avec des familles naissantes et tout, ils ont besoin d'un horizon de 2, 3, 4 ans. Et s'ils ne l'ont pas,
ils verront un horizon plus vert ailleurs.
Oui, c'est ça que vous dites. Les jeunes dans leur pays également, où ils viennent, eux aussi ont des pénuries de personnel dans ce domaine-là.
Merci. Je vous propose maintenant d'écouter ceci. Ce sera notre dernier extrait sonore de l'émission.
J'en appelle donc à l'ensemble de la société civile pour effectuer une corvée de requalification et de rehaussement des compétences qui permettra à terme au Québec de se positionner par la qualité de sa main-d'œuvre. Il faudra élaborer une offre plus étoffée de formation de courte durée, des programmes en alternance travail-études, la formation à temps partiel au niveau où c'est pas toujours possible, tout en ne lésinant pas sur la pertinence de ces formations pour ne pas perdre d'expertise.
Le Québec, un Eldorado pour les talents en IA, entre mythe et réalité, un balado C'est plus clair, proposé par la rédaction de C'est Science IA et animé par Philippe Rémy.
On vient d'entendre le ministre du Travail, Jean Boulet, qui, lors du forum virtuel sur la requalification de la main-d'œuvre le 16 octobre dernier, annonçait différents programmes gouvernementaux pour la formation des travailleurs québécois et ceux provenant de l'étranger. Alors le ministre lançait donc, cet appel à la société civile pour faire une corvée de requalification dans les entreprises. Alors justement, la requalification, est-ce que ça ne devrait pas être la solution première, la première préoccupation en somme face au manque de main-d'œuvre dans les secteurs de l'IA, Jean-François Lefort?
Oui, je pense que c'est exactement aligné avec les programmes de Scale AI. On cherche à aider les entreprises à devenir innovantes, à entreprendre une transformation numérique, à adopter l'intelligence numérique. Mais ce qui est très important, c'est que les données, les bases de l'intelligence artificielle, si on veut, ne sont pas alimentées sans les personnes. Donc, c'est à la base les humains qui font de l'IA et c'est avec cette requalification de main-d'œuvre qu'on souhaite arriver aux objectifs, la création de richesses à travers la création d'emplois. Et Scale AI, nos programmes, c'est exactement ce qu'on vise, à s'assurer que les entreprises ont les moyens, que ceux qui cherchent les programmes de formation qui en ont besoin trouve le pont vers ceux qui offrent la formation. On est très choyé de courtoyer des organismes comme Ivado, qui, eux, sont à l'affût et à l'écoute des besoins de l'industrie. Mais bien encore, à travers le Canada, on parle surtout de EMI à l'Université d'Alberta, Vecteur en Ontario, le MIDA ici encore au Québec. Donc, pour nous, c'est exactement ce que nos programmes visent à résoudre. Mmh.
Dans un rapport publié en février 2020 sur la commercialisation de l'IA, le Conseil consultatif en matière d'intelligence artificielle du gouvernement du Canada exhortait, face à la concurrence mondiale, à en faire davantage pour remédier à l'offre limitée d'experts au Canada et d'y aller de sa recommandation pour, et je cite là encore, renforcer les programmes d'apprentissage et de développement des compétences en milieu professionnel et y créer des filières spécialisées d'IA pour encourager les entreprises à explorer les projets fondés sur l'IA. Fin de citation. Accélérer la formation en milieu du travail. Vous êtes tous deux, et vous venez de le souligner et de le rappeler à nouveau, Jean-François Lefort, très actif en la matière. Est-ce que le mouvement, on peut dire qu'il est lancé? Est-ce que vous notez d'ores et déjà des résultats positifs, très concrets en la matière, Gilles Savard?
Je pense qu'on a encore un électrochoc à donner à nos entreprises. Hein. Cette transformation numérique, et peut-être que la pandémie va aider à saisir l'importance de cette transformation numérique et ce passage à l'ère numérique et à un ère plus intelligent à l'intérieur des processus d'affaires des entreprises. Mais pour l'instant, les entreprises y voient un intérêt, y voient quasiment une obligation, mais on a d'autres choses à faire en attendant. On répond aux plus urgents. Alors, c'est toujours une vision stratégique de développement de saisir cette importance-là. Alors, je vois une différence depuis une année. Je ne dirais pas que les entreprises frappent aux portes de toutes les universités, de tous les centres de recherche capables de...
qui sont capables de le faire. Mais là, c'est intéressant, Gilles Savard. Permettez-moi de rebondir à nouveau sur ce que vous dites, parce que ça, vous l'avez souligné en tout début d'émission, et je pense qu'on a saisi un élément important. C'est ce que vous semblez dire, en quelque sorte, c'est qu'il y a un problème d'état d'esprit, un a priori des entreprises quant à la complexité, l'hyperspécialisation des métiers de l'IA, qui empêcherait justement cet échange ouvert entre les universitaires, les entreprises, qui fait peur aux employeurs, qui les rend frileux quand il s'agit de promouvoir la requalification au sein de leur équipe. Est-ce qu'il vient de là, ce blocage? Est-ce qu'il y a un a priori chez les entreprises?
Écoutez, il y a une histoire, c'est mon hypothèse, je ne suis pas économiste. Je suis professeur en intelligence numérique, en recherche opérationnelle, en algorithmique depuis 35 ans, mais je remarque le Canada, globalement, et les indicateurs le disent, nous étions une société relativement peu innovante. Nos entreprises l'étaient peu. De plus en plus, et nos gouvernements ont développé énormément de programmes pour stimuler cette innovation à l'intérieur. Mais je pourrais donner peut-être deux raisons principales. La première, c'est que nation de ressources naturelles. Nous étions bien garnis dans les mines, dans le pétrole, évidemment, et qui garantissait des revenus très bons. Et nous avons une...
Ça veut dire, en gros, on s'est reposé sur nos lauriers, c'est ça que vous voulez dire, Gilles Savard?
On vit très bien quand même, hein? je dis pas. Et le deuxième côté, c'est peut-être la prime à l'inefficacité, à la non-productivité, qui est notre dollar canadien versus notre marché principal, le dollar américain au sud. Et ce qui a fait en sorte que, sans trop innover, sans être nécessairement à un haut niveau de productivité, on réussit très bien à vendre nos produits.
On s'en est bien sorti. Ouais.
C'est un peu ça.
Oui, Gilles Savard. Gilles Savard, peut-être demander à Jean-François Lefort, parce que lui, il côtoie aussi, comme vous d'ailleurs, les entreprises. Justement, je suis curieux de vous entendre là-dessus. Est-ce que ce blocage, il vient là aussi peut-être on s'est un petit peu reposé sur ce qui faisait notre zone de confort. Est-ce qu'il faut sortir de la zone de confort pour les entreprises? Est-ce qu'elles en ont conscience?
Oui, absolument. Puis je pense que c'est vraiment, comme M. Savard a mentionné, il faut donner un électrochoc. Puis c'est un peu ce qu'on fait dans nos rencontres avec les entreprises. Lorsqu'on parle du programme de Scale AI, on leur pose la question comment allez-vous ou anticipez-vous de prendre une décision à partir de vos données? Comment allez-vous créer de la valeur? Un peu comme tout à l'heure M. Savard a mentionné, de la donnée à la décision. Puis, ils sont à la recherche d'idées, ils sont à la recherche ou à l'exploration de comment l'intelligence numérique peut s'appliquer à leur industrie. Comment est-ce que les défis auxquels ils font face, auxquels ils discutent actuellement, peuvent être adressées par l'intelligence numérique. Et au centre de cette discussion-là, c'est comment est-ce que notre main-d'œuvre peut se former, quel genre de programme existe, qui peut nous aider, qui peut nous accompagner. Et puis, c'est vraiment le rôle de Scale AI de renforcer à travers nos discussions l'écosystème pan-canadien et québécois, d'amener ceux qui peuvent fournir ces solutions-là à la table avec ces entreprises-là. Donc, pour Scale AI, c'est vraiment d'aller accompagner les entreprises et de faire en sorte qu'ils ont devant eux quelques options et que nos investissements les accompagnent vers cette transformation.
Ouais, de changer le mindset, hein, en quelque sorte. Il y a quelques jours à peine, évidemment, le ministre des Finances, Éric Girard, présentait le plan de relance économique du Québec dans le cadre duquel le gouvernement s'engage à injecter 157 millions de dollars pour la requalification et la formation de la main-d'œuvre dans des secteurs ciblés. Québec espère ainsi former 2500 travailleurs supplémentaires en technologie de l'information grâce à un programme appelé Pratique. Et le budget Girard prévoit aussi une somme de 53 millions de dollars pour mieux répondre aux besoins de main-d'œuvre en technologie de l'information. Alors, l'objectif, il est fixé. Il faut former au moins 10 000 travailleurs par année dans le domaine au cours des 5 prochaines années. Par-delà l'aspect financier, et ce sera ma dernière question pour vous deux, s'il y a une mesure prioritaire à court terme à appliquer pour assurer l'efficacité de la formation en IA durant le parcours professionnel, ce serait laquelle selon vous? Commençons par vous, Gilles Savard, et on terminera par Jean-François Lefort.
Encore là, deux niveaux. Je pense que la relève, elle demeure essentielle. Favoriser l'attraction des technologies d'information et communication aux femmes. On est à 25%. On peut monter nettement plus. Déjà, on aperçoit depuis 3 ans, 4 ans, une augmentation de près de 300% des inscriptions. Donc, on est sur la bonne voie, augmenter ça. Et je le répète, faire en sorte que les entreprises investissent dans cette requalification. Les programmes sont là, Scale AI a des programmes et tout. Il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent disponible pour les entreprises. Il faut que les entreprises adhèrent et adoptent ces programmes-là et requalifient intelligemment. Il ne faut surtout pas requalifier tous les employés en deep learning, je n'y crois pas. Mais dans cette connaissance de la transformation numérique et du potentiel de ces algorithmes pour transformer les processus d'affaires des entreprises.
Jean-François Lefort, est-ce que votre baguette magique, la mesure prioritaire, ça serait la même que
celle de Gilles Savard? Je pense que tout à fait, les mêmes que Gilles Savard. Je pense que pour Scale AI, le développement de la main-d'œuvre se prend en deux volets, la main-d'œuvre actuelle, mais la main-d'œuvre du futur. Donc, ce que M. Savard a mentionné à plusieurs reprises, la relève, ça c'est très, très, très important pour nous au niveau de la sensibilisation jeunesse pour tout ce qui est les programmes STEAM, les programmes de chaires de recherche dont on fait partie. On recrute activement afin de faire en sorte que les entreprises, les universités aussi ont les ressources nécessaires afin de promouvoir la relève. Et donc, c'est vraiment le point de départ.
La relève. On n'a pas pu vérifier, évidemment, Gilles Savard, si vous avez fait comme le général de Gaulle, comme un cabri sur votre siège. Mais en tout cas, voilà, on l'aura retenu. Merci à vous, Jean-François Lefort. Je rappelle, vous êtes directeur des opérations programme de développement de la main-d'œuvre en IA chez Scale AI. Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Et ben voilà, on vous entend pas, mais voilà, c'est quoi, vous êtes là, je pense. Merci également à Gilles Savard, vous êtes directeur général chez Ivado, l'Institut de valorisation des données. Dites-nous si vous étiez comme le général de Gaulle sur votre siège en disant la relève.
Pas très loin, Gilles. Effectivement.
Merci en tout cas à vous deux, à la réalisation technique, Njitje Doumbia et toute l'équipe de GTS, à la coordination plateau, Bénédicte Laflamme, à la direction éditoriale, Jonathan Chodjaï, à la recherche, Valérie Fortier et Emmanuel Delacour. Merci à notre partenaire, le gouvernement du Québec, pour le soutien actif à la réalisation logistique de cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. Philippe Regnoux au micro. Le Québec est-il un Eldorado pour les talents en IA? Pour vous, on l'espère, c'est désormais plus clair. Merci de votre attention.